parole de jeunes. Votre émission Parole de jeunes sur les ondes de Radio Présence Figeac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole de jeunes. Je vous propose de continuer le cycle intitulé Au cœur des professions. Nous retrouvons tout de suite des élèves de Jeanne d'Arc Figeac accompagnés de leurs professeurs avec leur invité pour nous faire découvrir une profession. Bonne écoute!
Bienvenue chers auditeurs de Radio Présence pour une nouvelle émission Au cœur des professions. Aujourd'hui nous recevons Madame Barbance, footballeuse professionnelle et enseignante en EPS, qui va nous parler de son parcours et de son expérience dans le monde du football. Bonjour Madame Barbance, merci d'être avec nous.
Bonjour et bonjour Madame Barbance, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, effectivement donc, je m'appelle Solène Barbance, je joue au sein du Rodez Aveyron Football, au poste de milieu de terrain. Donc je joue au football depuis que j'ai 6 ans, donc ça va faire 27 ans maintenant. Et je suis également professeur de PS depuis 3 ans.
En quoi consiste votre quotidien pour arriver à concilier le foot et l'enseignement ?
Le mot d'ordre, c'est l'organisation, parce qu'il y a beaucoup d'entraînements dans la semaine, il y en a 4. J'ai à côté donc, le métier de professeur de PS qui nécessite de venir 2 à 3 fois par semaine au collège. Donc ça représente 1h10, 1h15 de route. Et derrière, d'avoir l'entraînement qui enchaîne, donc parfois c'est un petit peu difficile, mais voilà, c'est une question d'organisation, profiter des moments où il y a un petit peu de repos pour pouvoir voilà, se ressourcer, on va dire, et ensuite pouvoir réenchaîner toutes les activités.
Comment organisez-vous vos journées en dehors des entraînements et des matchs ?
Comment elles sont organisées ? La plupart du temps, je vais travailler mes cours. Je vais avoir du repos, après bon, c'est la journée habituelle d'une personne, hein. C'est voilà, s'occuper de son chez-soi, pardon. Mais non, après voilà, c'est beaucoup axé sur le repos et pour être à 100% lors des matchs. Quoi.
Comment conciliez-vous les exigences physiques, mentales et personnelles de vos deux métiers ?
C'est avec l'expérience, hein. C'est vrai que au début, quand on démarre, on est un peu. Tout feu, tout flamme sur tous les tableaux, on va dire. Et au fur et à mesure, on apprend à être plus exigeant, on va dire, sur certains points et d'autres à lâcher un peu plus parce que, bon, voilà, faut prioriser, on va dire. Donc, mentalement, c'est important d'avoir des moments de repos, justement, pour pouvoir être à fond quand on va avoir la nécessité de travailler, on va dire, avec beaucoup d'exigence. Pendant les entraînements et surtout pendant les matchs. Et après, au niveau du travail, bon, moi j'ai la chance d'avoir un super chef d'établissement qui me permet d'organiser mon quotidien avec seulement 2 à 3 jours de travail par semaine. Donc ça facilite beaucoup de choses. Et c'est vrai que le lundi, le vendredi, je ne travaille pas. Donc pour la fatigue et pour aussi organiser mieux les séances, ça facilite énormément de choses.
Avez-vous suivi un parcours particulier pour devenir footballeuse professionnelle ?
Alors quand j'étais petite, je jouais dans mes clubs à côté de chez moi, donc là il n'y avait rien de particulier. En revanche, quand on grandit, on a la possibilité de faire des détections pour le département. Et si on est retenu, on passe à la région. Et si ça se passe bien, à mon époque, c'était on passait le concours d'entrée pour entrer au centre de formation à Clairefontaine. Donc on était une grosse dizaine à être retenus pour y aller. Et c'est vrai qu'une fois qu'on rentre dans ce système-là, ça nous ouvre des portes pour après bénéficier de la meilleure organisation possible pour s'entraîner avec tout ce qui est de haut niveau. On avait accès aux salles de musculation, à des terrains de qualité. Même quand il pleuvait, on était sous un synthétique couvert, donc c'est vrai qu'on n'était jamais embêté par les intempéries. Donc là-dessus, ça a vraiment facilité mon parcours. Et après, pour intégrer des clubs de division 1, c'est-à-dire le plus haut niveau, ça facilite beaucoup de choses parce que vous obtenez un centre de formation qui est réputé, donc c'est vrai que ça ouvrait des portes. Donc ça a été un petit peu le déclenchement de ce qui a permis la suite de ma carrière.
Comment avez-vous commencé votre carrière et quel rôle a joué votre formation dans votre progression ?
Donc, comment je l'ai commencé, c'est simple, hein, j'avais un papa et un frère qui jouent au foot. Donc pour faire comme eux, ben, voilà, j'ai pris un ballon, je me suis mise à jongler. Et puis, il y a un entraîneur qui m'a vu prendre le ballon et m'exercer et qui a dit à ma mère, je pense qu'il faudrait lui faire prendre une licence parce qu'il y a quelque chose. Donc voilà, c'est parti de là. Et après, voilà, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la formation, ça a été au fur et à mesure d'intégrer le pôle de formation et des grands clubs aux alentours qui ont permis de me faire évoluer.
Quelles compétences et qualités sont les plus importantes pour réussir dans le football professionnel ?
Ouais, mentalement, il faut être costaud parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est un milieu qui est assez difficile parce que concurrentiel. Et donc c'est vrai que quand on fait face à des blessures ou à de la concurrence difficile, c'est vrai que mentalement, il faut être armé, bien armé. Et après, les qualités, c'est le goût du travail. Il n'y a pas de secret, le goût de l'effort, le goût du travail. C'est de se dire que dans une carrière, tout n'est pas tout rose et qu'à des moments, il faut faire face aux difficultés, mais il ne faut rien lâcher. Et c'est ça, je pense, les principales qualités pour réussir. Ouais.
Y a-t-il des aspects du jeu comme la tactique ou la préparation physique qui nécessitent une attention particulière ?
Pour la tactique, pas spécialement, parce que en fait, au fur et à mesure, on apprend un différent système de jeu et quand on grandit, c'est vrai qu'après, ça se fait naturellement. C'est plus quand on est jeune que c'est important d'apprendre à bien se situer sur le terrain, à savoir quand il faut presser et quand il faut rester en bloc avec son équipe. Donc ça, c'est des notions qu'on apprend quand on est plus jeune. Et après, au niveau de la préparation physique, c'est sûr que là, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas la préparation physique d'été, si quand on vous demande de faire du physique, tout ce qui est 15-15, 10-20, etc., vous ne le faites pas à fond, le jour du match, il n'y a pas de secret, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors que si vous le faites vraiment avec la conscience professionnelle d'aller au bout de vous-même, ça finit toujours par payer, ça, c'est une certitude.
Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés au cours de votre carrière ?
Je pense que c'est la blessure au genou, parce que j'y ai pas échappé, à la team ligament croisé. Et voilà, pendant un an, vous êtes éloigné des terrains, de la compétition, et c'est pas facile, hein, parce qu'en plus, vous voyez votre corps qui change, vous perdez du muscle, vous perdez du gras, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, et il faut un certain processus, que ce soit physique ou mental, pour se remettre dedans. On dit qu'il faut en général un an et demi pour se remettre vraiment de ce type de blessure, pour revenir dans des très bonnes conditions, et ça a été mon cas. Donc voilà, ça a été une période difficile, mais heureusement qui est loin derrière et qui permet de grandir aussi.
Avez-vous dû surmonter des obstacles particuliers pour atteindre ce niveau de performance ?
C'est pas forcément des obstacles, mais c'est vrai, il faut faire face à des décisions qui ne sont pas toujours faciles, qu'on ne comprend pas forcément toujours, mais la finalité, c'est qu'on se réfugie toujours dans le travail et qu'on n'a pas le choix. C'est soit vous abandonnez et vous dites je comprends pas pourquoi je joue, pourquoi je joue pas, pourquoi ces choix, etc., etc. Ou alors vous réfugiez dans le travail, vous travaillez et puis un jour ça finit par payer. De toute façon, il n'y a pas de secret. Donc voilà, c'est votre façon d'aborder les obstacles et d'en sortir grandi.
Quelles sont les évolutions possibles pour une footballeuse professionnelle ?
Les évolutions, on n'est pas encore comme les garçons. Les évolutions, c'est simple, hein. C'est vous démarrez dans votre petit club à côté de chez vous, puis vous essayez de percer, comme on dit, c'est-à-dire de rejoindre des clubs qui sont de plus grande formation. Et après, l'objectif, c'est de devenir professionnel, donc de vivre de ce métier-là. Et puis après, c'est de jouer dans les meilleurs clubs du monde et puis d'intégrer aussi la sélection nationale pour vivre les plus grandes compétitions, comme les Coupes du Monde, les Euros, les JO. Voilà, c'est ça vraiment les évolutions qu'on peut avoir quand on aspire à devenir footballeuse professionnelle.
Existe-t-il des opportunités de progression au sein du sport, comme des spécialisations ou des rôles après la carrière active ?
Vous pouvez devenir entraîneur, vous pouvez passer vos brevets d'entraîneur qui sont accessibles même pendant la carrière. Après, ça commence à se développer. Donc, je sais qu'il y a des anciennes joueuses qui sont devenues consultantes sur Canal+, comme par exemple Laure Boulot ou Charlotte Lorgeret qui est sur Bein Sport. Il y a eu Louise Anessive aussi. Donc, vous avez cette possibilité-là de pouvoir amener vos points de vue et vos critiques sur le foot féminin parce que vous avez été dans le milieu pendant des années. Donc, pour l'instant, ouais, c'est vraiment consultant sportif, entraîneur ou alors... Il y en a aussi qui deviennent directrice ou manager général de clubs spécialistes foot féminin, donc ça c'est intéressant. Ouais.
Avez-vous déjà rencontré des tensions ou des difficultés dans vos relations avec des coéquipières, entraîneuses ou supporters?
Oui, ça arrive quotidiennement. Ça arrive quotidiennement parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il n'y a pas toujours les victoires, parce qu'il y a des remises en question, il y a des critiques qui sont plus virulentes quand vous perdez. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à accepter. Parfois, c'est même injuste, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, encore une fois, c'est être capable de mettre de l'eau dans son vin, chacun de son côté, de tirer le meilleur de l'équipe parce qu'on veut tous réussir, on est tous dans le même bateau. Et voilà, il faut apprendre à fonctionner avec tout le monde. Et puis, petit à petit, ça finit par s'estomper. Et que dès que vous retrouvez les victoires, de toute façon, après, ça repart, comme on dit.
Comment avez-vous géré ces situations et quelles leçons en avez-vous tirées?
Comment on a géré les situations? C'est de la discussion, c'est beaucoup de communication, c'est essayer de comprendre un petit peu les difficultés que certaines rencontrent ou pas. Comment faire pour améliorer ça et répondre aux attentes des entraîneurs, c'est surtout voilà de la communication et du travail. Ça a rien de formidable, mais voilà, c'est vraiment apprendre à communiquer et avec pédagogie. C'est ça qui est le plus difficile, surtout quand vous perdez. Après, les leçons qu'on en tire, c'est que dans la difficulté, quand vous arrivez à trouver des solutions, vous en sortez grandi. Hein. C'est évident, hein. Vous êtes au plus bas, vous perdez, et puis d'un coup, vous commencez à vraiment évoquer les problèmes sans trop froisser les uns et les autres, hein. Puis vous trouvez des solutions, vous gagnez, et puis voilà, vous en sortez grandi. Hein. Il n'y a pas de secret.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de pratiquer le football professionnellement?
Professionnellement, c'est l'idée de se dire que si vraiment on est professionnel, parce que ça a été le cas pendant quelques années, c'est de se dire que vous mangez, vous vivez, vous dormez foot. C'est-à-dire que la seule préoccupation que vous avez, c'est vous et votre corps et votre sommeil et votre alimentation. Donc ça enlève énormément de poids sur tout le reste. Vous n'avez pas de travail à côté, vous vivez que du foot. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous déjeunez, vous allez jouer au foot, vous rentrez chez vous, vous avez votre repas du midi, vous pouvez faire votre petite sieste l'après-midi. Derrière, vous avez le deuxième entraînement s'il y en a un, et sinon vous avez fini votre journée. Donc c'est quand même un luxe qui est incroyable, je trouve, dans le monde actuel où il y a des gens qui doivent se lever tous les matins, faire 8h, 17h, si ce n'est plus, qui ont que les week-ends. Nous, dans cette situation-là, c'était quand même un luxe de se dire on est professionnel, et on tape derrière un ballon. C'est quand même pas le métier le plus difficile du monde. Donc c'était vraiment ça le point hyper positif quand on est footballeur pro. Ouais.
Y a-t-il un moment ou une expérience qui vous a particulièrement marqué et vous a donné un grand sentiment de satisfaction?
Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Un moment ou une expérience, c'est vraiment des matchs qui ont été vécus. Vous perdez 2-0 à la mi-temps, vous finissez le match, il y a 2-2, vous gagnez au pénalty. Enfin, c'est des matchs extraordinaires. Après, évidemment, il y a les sélections nationales qui sont des grands sentiments de fierté. Parce que vous êtes sélectionné pour votre pays, en plus on est arrivé à gagner des titres avec l'équipe de France U19, on était championne d'Europe, avec l'équipe de France militaire on était championne du monde, avec l'équipe de France universitaire on était championne du monde. Donc c'est vrai que au-delà de l'expérience sportive, il y a une expérience humaine derrière qui est extraordinaire, parce que vous vivez pendant plusieurs semaines avec un groupe où vraiment vous faites que parler foot parce qu'il y a la compétition, etc. Et vous allez au bout, quoi. Vous avez la médaille d'or autour du cou, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, ça a été les plus grands moments, clairement, que j'ai pu vivre dans ma carrière.
Y a-t-il des aspects selon votre travail qui, selon vous, devraient être davantage valorisés ou reconnus dans le monde du sport, en particulier pour les femmes dans le football professionnel?
C'est un vrai chantier. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein, parce que, encore une fois, quand je vous disais que j'avais été footballeuse pro, je l'ai été 4 ans. 4 ans sur une carrière, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que moi, là où j'aimerais qu'on aille, sur quoi on tente, c'est que la Ligue 1, enfin la D1 professionnelle et la D1 féminine et la D2 féminine deviennent totalement professionnelles. C'est-à-dire que les filles, un salaire décent, parce qu'aujourd'hui, en D2, vous n'en avez quasiment aucune, et en D1, c'est pas tout le cas. Toutes les filles n'ont pas au moins le SMIC. Et le SMIC, c'est vraiment le minimum du minimum. Donc, voilà, c'est vraiment que les filles aient un salaire décent. On ne demande pas d'avoir 10 000 euros par mois. C'est que Lyon, Paris qui ont ces sommes-là et plus encore. Mais dans les autres clubs, on est loin du compte. Et c'est vrai que voilà, avoir un salaire digne de ce nom, ce serait un minimum pour les joueuses de se dire que derrière, bon ben, elles ont une vraie rémunération qui tombe, qu'elles peuvent, elles n'ont pas le souci de se dire comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mes factures, comment je vais payer mes courses, etc. C'est vraiment ça la base de la base qu'on n'a même pas aujourd'hui. Donc c'est le premier aspect. Et après, c'est pouvoir bénéficier d'infrastructures de qualité. C'est pas le cas dans tous les clubs. Hein. Donc c'est voilà, avoir votre salle de musculation, avoir votre possibilité de faire des bains froids, bains chauds régulièrement, d'avoir vos kinés qui sont là aux entraînements, pendant les matchs, qui vous suivent à domicile comme à l'extérieur. C'est des petits détails. Mais chez les filles, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. Je suis même pas sûre qu'en D1 ce soit le cas, et en D2 ça l'est pas. Donc c'est... Ça, c'est le minimum du minimum. Après, on est encore très très loin de ce que peuvent bénéficier, de ce dont les garçons peuvent bénéficier. Mais voilà, ce serait déjà une très bonne chose d'avoir des salaires décents et des infrastructures de qualité avec des terrains de qualité. Voilà, ce serait déjà pas mal.
Merci beaucoup, Madame Barbance, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Votre expérience nous permet de mieux comprendre les exigences et les plaisirs du métier de footballeuse professionnelle.
Merci encore et bonne chance pour la suite de votre carrière et dans tous vos projets.
Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout.
Eh bien, merci à vous, ça m'a fait plaisir de partager ces moments-là avec vous et merci aussi pour l'invitation.
C'était votre émission Parole de jeunes sur les ondes de votre radio chrétienne de proximité.